Philippe Gruat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Philippe Gruat, directeur de la direction de l'archéologie départementale sur le département de l'Aveyron. Et nous sommes ensemble à l'occasion de la sortie du numéro 33 des cahiers d'archéologie aveyronnaise. Première question, monsieur Gruat. L'année 2021, oui c'est bien ça, l'année passée, elle a été comment pour l'archéologie aveyronnaise? Il y a eu des belles découvertes ou...
C'est une année, oui, qui a eu son lot de découvertes, même si et de chantier, bien sûr, tant du point de vue de notre équipe que des intervenants extérieurs qui font des recherches sur le terrain. Même si le Covid a pas aidé, l'année 2021 a été meilleure que l'année 2020, où on a eu beaucoup de chantiers annulés ou reportés à cause de la crise sanitaire. Mais le cahier d'archéologie s'inscrit au-delà des années de découverte, puisque il y a des découvertes anciennes qui sont publiées dedans. C'est une publication. Donc, c'est pas forcément corrélé avec les découvertes récentes du terrain, parce que des fois, il faut un certain temps pour les publier.
Alors, on va regarder justement un petit peu ensemble dans le détail. Ce cahier, comme les précédents, si je dis pas de bêtises, il est construit par ordre un petit peu chronologique.
Oui, c'est ça. Voilà, oui, il y a un éditorial du président qui relate ce qui s'est fait l'année 2020 et puis qui rappelle les missions du service. Et puis après, on déroule bien sûr par période. Et puis ensuite, à la fin, il y a des notes et documents qui correspondent à des articles plus courts, qui sont des actualités un peu plus de recherche ou de découverte. Et puis, tout à fait à la fin, il y a une bibliographie annuelle qui renvoie à une année précédente. Donc là, c'est l'année 2019 qui est couverte, où on essaie de recenser ce qui est publié dans l'Aveyron, mais aussi à l'extérieur, mais qui concerne l'Aveyron en archéologie, ce qui est un outil précieux pour les étudiants, les chercheurs qui veulent savoir, puisque beaucoup de choses sont publiées dans d'autres revues extérieures au département. Et c'est toujours intéressant que les gens sachent où c'est pour éventuellement se renseigner pour des choses qui concernent leur territoire, leur village, leur ville, etc.
Alors, plus de 260 pages, hein, ces cahiers d'archéologie.
Il est particulièrement volumineux. C'est le même le plus volumineux depuis la création de la revue. Donc, cette année, il y a eu inflation d'articles, de gros articles surtout, qui montrent que ce cahier remplit sa fonction. Sa fonction est double. C'est, si vous voulez, c'est d'informer, mais c'est aussi de sauvegarder les découvertes, les fouilles que l'on fait. Si on ne les publie pas quelque part, si on ne publie pas la quintessence, les éléments les plus significatifs, c'est pas sauvegarder. Un chantier ou une découverte archéologique n'est sauvegardée que quand elle est publiée, puisqu'elle est accessible ensuite au plus grand nombre.
Alors, justement, parmi ces articles à lire, à découvrir dans Cahiers d'archéologie aveyronnaise, le premier, le plus ancien dans le temps, il nous ramène à la préhistoire, hein, évidemment, avec un papier, un dossier même, on peut dire, autour des statues menhirs Wergat et les vêtements chalcolithiques du nord-ouest méditerranéen. Faut nous décrypter un peu tout ça, parce que à part statues menhirs, j'ai rien compris.
Voilà, c'est chalcolithique. Alors, chalcolithique, c'est chalco, c'est cuivre, et lithique, pierre. Donc, c'est l'âge du cuivre. C'est un article qui fait le point sur les statues menhirs et qui essaie de faire des rapprochements entre ce que l'on voit sur les statues menhirs du sud d'Aveyron, où elles sont très nombreuses, où elles représentent des ancêtres, des hommes et des femmes qui ont été statufiés. Et les auteurs renvoient à des découvertes archéologiques où des vêtements ont été trouvés, notamment dans le domaine ibérique, dans des milieux secs, ou alors dans des glaciers comme Ozi, à cheval entre l'Italie et l'Autriche. Donc c'est un article original, puisque c'est un angle de vue sur lequel on n'a pas souvent travaillé, mais c'est histoire de... Ce sont bien sûr des hypothèses, hein, mais ça permet de faire des rapprochements avec les tissus, les ceintures que l'on connaît, les motifs qui sont parfois ornés, mais qui sont surtout dans le domaine méditerranéen, en Italie ou en Espagne, et comparer cela avec quelques rapprochements qu'on peut faire avec nos statues menhirs Wergat, qui malheureusement ne livrent pas les sites contemporains ne livrent pas des vestiges de ces tissus qui ne se conservent pas malheureusement chez nous. C'est un angle original. C'est un article d'ailleurs qui est assez grand public et qui est très, très accessible. Et oui, chalcolithique, oui, mais c'est l'âge du cuivre, donc c'est un nom bien barbare pour renvoyer à l'époque où la première métallurgie naît, dans l'Aveyron notamment, où on a des mines de cuivre très précoces. Et donc c'est l'âge du cuivre, c'est une période qui est comprise en gros entre 3500, 3200 et 2200 avant Jésus-Christ à peu près.
D'accord.
C'est l'époque des dolmens, notamment, et des statues menhirs qui sont érigées dans le sud du territoire de l'Aveyron.
Il y a 5000 ans environ. Donc
un
premier papier donc sur la mode, grosso modo, autour la Méditerranée à cette époque-là.
La mode des vêtements des statues menhirs, donc qui représentaient probablement des vivants. Donc on a tout lieu de penser que ce qu'on voit sur les statues menhirs ou ces vêtements qui sont trouvés sont les vêtements aussi des contemporains qui malheureusement ont laissé moins de traces.
Deuxième grand papier, grand article. Là on se rapproche un petit peu de notre période, mais enfin on reste quand même loin. On est dans l'époque de l'Antiquité avec un article intitulé Les remparts antiques et médiévaux de Rhodes, l'apport du diagnostic d'archéologie préventive conduit au palais épiscopal. C'est bien mystérieux.
Ouais. Voilà, donc c'est un diagnostic qui a été mené il y a quelques années sur le palais épiscopal dans l'optique de sa réhabilitation à l'époque, un hôtel de luxe qui a été revu après par le président qui a suivi et puis actuellement le nouveau président du département va probablement refaire un projet. Donc nous, ce qui était important, c'était de donner les informations qu'on avait déjà glanées à l'occasion de ces sondages qui sont très limitées puisque le principe de l'archéologie, c'est de ne sonder que ce qui va être impacté par les travaux, de conserver le plus possible le reste, puisque on est un peu comme dans l'environnement, on est dans le non renouvelable. Donc notre patrimoine, quand on le fouille ou quand on le détruit, il n'y est plus après. Donc on essaie de garder le plus possible de vestiges. Donc là, on a fait une série de sondages et puis surtout l'étude d'une cave sous l'évêché qui a livré des informations intéressantes et qui permet notamment de faire revivre, de remonter la chronologie, notamment des remparts de Rhodes. On a tous en mémoire le tour de ville qui en fait symbolise et marque au sol les anciens fossés de la ville à l'époque où on a dressé au milieu du XIVe siècle l'enceinte autour du cœur historique. Et ces remparts, on sait qu'avant il y avait le bourg et la cité qui étaient protégés aussi par des fortifications indépendantes. Mais on n'a pas trop souvent eu l'occasion de les rencontrer archéologiquement. Et là, à l'évêché, on a eu la chance de retrouver à plusieurs endroits des tronçons de cette fortification qui montrent visiblement que l'on a chemisé, réhabillé à plusieurs reprises les remparts qui étaient déjà à cette place-là, à l'emplacement actuel du tour de ville. Et donc, ces remparts seraient plus anciens que ce que l'on pensait puisqu'on a des datations au moins sur le 11e, 12e siècle, donc qui sont bien antérieures à l'enceinte du 14e siècle qui est créée à l'occasion des guerres contre les Anglais. Parmi ces remparts, une des surprises, ça a été dans la cave du secrétariat de l'évêché, de retrouver un bout du rempart antique de Rhodes, qu'on a de visible pour l'instant qu'au parking des remparts sur le tour de ville, où on voit à la base du rempart médiéval un appareil romain d'allure bien différente. Ce rempart est de la fin de l'Antiquité, autour du 4e, 5e siècle, on le donnait comme tel, mais il n'avait jamais été daté précisément. Et là, on a eu la chance et puis la persévérance en faisant plusieurs datations au carbone 14 sur le mortier de ce mur et en cherchant des charbons de bois piégés dans le mortier, de faire des datations. Et on est arrivé à avoir une datation après plusieurs autres qui étaient plus tardives, qui montraient que l'enceinte avait, que ce bout de rempart avait été repris plusieurs fois au Moyen-Âge. On a eu la chance de pouvoir le dater du 4e siècle. Et donc on a maintenant une datation assez précise sur ce rempart de l'évêché. Et on sait que notamment à proximité entre la cathédrale et l'évêché, dans la rue donc Frayssinou qui remonte, on avait un système de portes avec la porte Saint-Martial qui au Moyen-Âge permettait de rentrer dans la ville entre cathédrale et l'évêché, et cette porte Saint-Martial se superpose à une porte antique manifestement puisque au 19e siècle quand le niveau de la rue a été abaissé, des vestiges importants ont été trouvés, notamment une voie romaine, puis des éléments de tours et de portes antiques qui montraient qu'il y avait par là une entrée de la ville monumentale. Et donc le rempart que l'on a trouvé dans la cave de l'évêché se rattache à cette période-là. Et on sait qu'il est du 4e siècle. Et donc c'est intéressant intéressant. Donc du coup, à partir de là, on a également publié une photogrammétrie du rempart, justement du parking des remparts, et fait élargi à l'ensemble de la ville ce rempart, parce qu'on a des traces ailleurs qui montrent qu'il y a probablement aussi eu un rempart, en tout cas à certains endroits de la ville, dès le Haut Empire. Il y a eu probablement un premier rempart dès le 1er siècle, probablement, voire avant, à l'époque augustéenne. Mais en fait, l'enceinte ne s'est vraiment développée que tardivement, celle en tout cas que l'on voit actuellement, dans le secteur des remparts, du parking des remparts, mais également dans le secteur de l'évêché et de la cathédrale.
On continue de feuilleter et de remonter le temps, avec plusieurs papiers, là, cette fois consacrés à la période du Moyen-Âge. Je ne vais pas tous les développer avec vous. Il y en a un sur le pont vieux de Millau, un autre sur les fortifications et la tour seigneuriale de Mongeau, un papier sur le centenaire de la Granède. Voilà. Et puis un papier sur la maison Guitare à Rodez qu'on connaît bien. Qu'est-ce qu'on apprend en lisant ce papier sur cette maison très connue à Rodez?
Écoutez, je ne suis pas suffisamment spécialiste. C'est plutôt Diane Joie qui a mené cette étude. Ce qui est intéressant dans les papiers que vous avez énoncés, et dont celui de la maison Guitare, c'est qu'il y a de plus en plus de l'archéologie du bâti qui se développe. C'est le cas pour la maison Guitare, mais c'est le cas aussi pour le pont de Millau, qui remonte au Moyen-Âge. C'est également le cas pour Mongeau, où c'est vrai que de nos jours, on a bien du mal à deviner tous les emplacements médiévaux et toutes les structures médiévales qui étaient érigées. Et donc, tous ces articles montrent qu'un aspect qui est un peu moins connu des gens, c'est que l'archéologie, c'est pas que le sédimentaire, c'est pas que les couches dans la terre, c'est aussi les élévations. Et donc, la maison Guitare permet de faire une étude sur le bâti, avec les fenêtres, caractéristiques de cette époque-là. Il montre un habitat un peu cossu. Hein. La famille Guitare était dans la hiérarchie sociale de Rodez déjà important, hein, des patriciens. Cette tour qui est actuellement d'ailleurs en mauvais état et qui va faire l'objet de travaux probablement de restauration, là est étudiée. Il y a un état sanitaire qui est fait avant, qui est important parce que comme ça on a une trace avant restauration de comment étaient les bâtiments, parce qu'une fois que c'est restauré, ce qu'oublie parfois ce qu'on a pendant longtemps oublié quand on faisait des restaurations de châteaux et d'églises dans l'Aveyron, c'est que une fois que c'est restauré, après on n'a plus le souvenir de comment c'était. Et au bout de quelques années, la patine aidant, on a toutes les traces de la chronologie relative, parce que ces constructions, quand on les regarde attentivement, on voit qu'il y a plusieurs étapes dans les travaux, on voit une chronologie des fenêtres, des portes, etc. Et donc ça permet de dérouler une espèce de chronologie relative des bâtiments, et en plus, qui peut être en plus après corrélé avec les données historiques que l'on a sur Rodez.
Alors on n'a pas eu le temps de développer évidemment ensemble tout ce qu'on peut trouver dans ces cahiers d'archéologie aveyronnaise numéro 33, monsieur Gruat, plus de 260 pages, des textes bien sûr, des mots, mais aussi beaucoup de documents, hein, des photos, que. Hein.
Oui, bien sûr, c'est pas que du texte. Là, l'archéologie a besoin de beaucoup d'iconographie, de plans, de relevés, de photos, de dessins d'objets. Et ça, ce qui rend beaucoup plus les choses lisibles, un bon dessin ou une bonne photographie évite bien des discours. C'est pour ça qu'en archéologie, l'iconographie est très importante. Et parmi les articles, il y en a un qui est très intéressant, c'est celui de la Granède, justement, que vous évoquiez tout à l'heure, puisque c'est un site au-dessus de Millau. C'est en quelque sorte la vigie qui surveillait la ville de Millau, la ville de Millau qui est au moins à son emplacement actuel depuis l'époque gauloise. Et au-dessus, il y avait ce fortin qui est la Granède, qui est un éperon rocheux au bord de l'ancienne route nationale qui menait sur le Larzac. Ce fortin, en quelque sorte, surveiller l'accès à la ville en bas, dans la plaine, et border la voie romaine qui allait du Midi à Millau. Et donc ce site est un site emblématique du Millavois, puisque fouillé par notre collègue Christophe Saint-Pierre, puisque ce site est occupé au moins depuis le néolithique moyen, mais surtout à partir de la fin de l'âge du bronze et du début de l'âge du fer, vers le 9e siècle avant notre ère. Et après, il déroule une chronologie jusqu'au Moyen-Âge, où le site est notamment occupé à partir de l'Antiquité par des temples gallo-romains qui sont intéressants, et va se superposer à ces temples une église paléo-chrétienne dès le 5e siècle qui va se développer, évoluer avec une nécropole tout autour jusqu'au 10e, à la charnière du 10-11e siècle. Et donc, qui est intéressante parce que cette église est une des plus anciennes de l'Aveyron, puisqu'elle date du 5e siècle. Elle est jouxtée par un baptistère cruciforme. C'est vraiment un site exceptionnel. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'habitants autour, donc cette église pose plein de questions sur le fonctionnement de la société à l'époque. Les gens venaient-ils de hameaux autour, de la ville d'en bas, etc., puisqu'il n'y a pas la population nécessaire autour de cette église, visiblement, sur le site de la Granède. Mais c'était sans doute une église qui était fréquentée à l'occasion de cérémonies. Et donc, ce n'est pas encore une église au milieu du village, comme un peu plus tard, mais une église plutôt isolée et cristallisée, tout un peuplement qui était aux alentours.
Très bien. Les cahiers d'archéologie aveyronnaise viennent de sortir. C'est 18 € pour les 263 pages. Comment on fait pour se le procurer ? Où est-ce qu'on le trouve ?
Alors, on le trouve à la Maison du Livre, on le trouve dans toutes les librairies, les maisons de la presse qui le souhaitent, qui nous en commandent. Ils sont en train actuellement. Pour les plus pressés, si la diffusion encore n'a pas été toujours effectuée, ils peuvent venir à la direction départementale d'archéologie, à Bel Air, au 195 rue des Artisans, à côté du laboratoire d'analyse, où on peut leur en fournir.
Super.
Pour la somme de 18 €, sachant que voilà, il y a un numéro annuel et que c'est aussi le reflet de la politique du département en matière d'archéologie. Et puis, c'est surtout, ça vérifie le vieil adage qui dit qu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et c'est important pour les générations futures et puis pour nous aussi d'avoir cette mémoire du sous-sol de conserver et puis d'accessible parce qu'on y apprend plein de choses sur les techniques de nos anciens, sur les croyances, le mode de vie, etc. Et donc c'est un précieux complément des pages plus récentes de notre histoire qui se fait à partir des textes. Là, c'est les archives du sol.
Bien sûr. Et le fruit donc du travail de la direction d'archéologie du département de l'Aveyron.
Mais aussi également des bénévoles de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine archéologique aveyronnais qui participent, et puis d'autres chercheurs extérieurs. Les colonnes sont ouvertes à tous les... C'est vrai qu'il y a une majorité d'articles réalisés par les membres de notre équipe, mais il y a également, c'est bien sûr ouvert aux chercheurs extérieurs qui travaillent sur l'Aveyron, et il y en a plusieurs dans cet article. Monsieur Lope, notamment le pont de Millau, et bien d'autres qui participent donc à cette revue.
Un dernier mot, Monsieur Grua. Pour 2022, là, vous savez s'il y a des chantiers archéologiques plutôt qui vont s'ouvrir, ce qui va se passer cette année sur la...
Les activités des autres années se poursuivent normalement, les fouilles au Touriès dans le sud d'Aveyron, le sanctuaire héroïque normalement doivent se poursuivre si tout va bien, mais après d'autres opérations sont en préparation sur Villefranche, sur Millau, sur la Primove, sur des aménagements où il y aura des diagnostics d'archéologie préventive, mais pour l'instant c'est pas encore totalement fixé, mais ça aura lieu dans l'année, oui bien sûr il y aura des chantiers dans l'année 2022, bien sûr il y aura des opérations comme chaque année, l'aménagement, mais on est un peu tributaire actuellement de la crise du Covid qui ralentit parfois les calendriers.
Et des chantiers sur lesquels vous intervenez en archéologie préventive.
L'archéologie préventive, puisque c'est nous qu'on fait les diagnostics, puisqu'on réalise l'ensemble des diagnostics sur le département de l'Aveyron dans le cadre de la compétence globale. Donc on aura l'occasion peut-être d'en reparler à d'autres occasions.
Ce sera avec plaisir. En tout cas, bonne année à vous, bonne année toute la direction d'archéologie aveyronnaise, travaillez bien. Et puis en attendant, on va se tourner vers les cahiers d'archéologie aveyronnaise numéro 33 qui viennent de paraître. Merci Monsieur Grua.
Merci à vous. À bientôt.